Bon, c'est l'été. Merci à ceux qui viennent nous visiter. J'ai des nouvelles lunettes, je vois bien tout le monde. Je vais surtout lire, voir bien mon texte. L'été, des fois, on fait des psaumes. Alors, on va continuer les psaumes. Il y a quelques années, on est arrivé au psaume 11, donc c'est le 12. Ah ouais, c'est dans l'ordre. Renoncer aux mensonges. Et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Alors, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, ces paroles, cette prescription? Est-ce que quelqu'un reconnaît d'où ça peut venir? Renoncer aux mensonges et que chacun parle selon la vérité à son prochain. En tout cas, c'est un beau programme et tout le monde, je crois, peut dire oui, oui, c'est bien de renoncer aux mensonges. C'est bien de dire la vérité. C'est tiré de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Est-ce que, pour autant, c'est quelque chose qui est vraiment suivi, vraiment pris à cœur? On a notre société, quand on l'observe, on voit le bruit de fond du mensonge devenir de plus en plus fort, de plus en plus assourdissant même. Et le psaume 12 va nous encourager ce matin à tenir ferme contre le mensonge. Alors on va le lire ce psaume, le psaume 12, plein milieu de nos bibles, en fait, presque, un peu avant le milieu. Un psaume de David. Au chef des chantres, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, et on a sous les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui sera notre maître? Verset 6, parce que les malheureux sont opprimés, que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur la terre au creuset, 7 fois. Épuré, toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Dieu sauve du mensonge. Dieu sauve du mensonge. On va parcourir le psaume et puis voir quelques illustrations et ensuite quelques applications pour nos vies. Alors, versets 2 et 3. Sauve éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres et on a sur des lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Je pourrais pas le dire en musique, mais normalement c'était en musique, on pouvait l'apprendre et le réciter et le savoir, tous ces chants, les mémoriser. David commence par un appel à Dieu. Sauve-nous, Seigneur, car le mensonge a remplacé la piété et la fidélité. Et il le déclina de 3 façons. Les paroles fausses, un contenu vain et creux. On dirait aujourd'hui parler la langue de bois. On parle, mais c'est pour rien dire. Finalement, on n'est pas plus avancé qu'à la fin qu'au début. Un contenu vain, un contenu faux. C'est la mode des trolls en ce moment. Vous savez, ces provocations, ces mensonges qui sortent comme ça dans les conversations uniquement pour provoquer, pour faire de la polémique, qui rappelle le fameux « Dieu a-t-il réellement dit ?»« Dieu a-t-il réellement dit ?» qui a attiré l'attention de Ève dans le jardin d'Éden. Les paroles flatteuses, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, nous dit La Fontaine dans sa fable, et les paroles flatteuses sont toujours autour de nous. Des paroles douces à entendre. C'est ce qu'on appelle de la démagogie. On a des paroles très officielles, des discours très officiels. Moins de travail, plus d'argent. Vous méritez mieux que ce que vous avez, vous savez. Des paroles flatteuses et un cœur double, c'est-à-dire de l'hypocrisie. Parler d'une façon et penser de l'autre, c'est le faux semblant. On exprime de la compassion à une personne, mais dans la vraie réalité de son cœur, on s'en fout complètement. Un cœur double, je t'aime, mais en fait, c'est pas vrai. Alors le problème vient de celui qui formule le mensonge, bien sûr, et le problème vient de celui qui le croit, bien souvent parce qu'il en a envie, et on a envie d'entendre des choses flatteuses, on a envie de satisfaire nos convoitises. En fait, la convoitise aveugle, elle fait perdre tout sens critique et on tombe facilement dans le panneau du mensonge. Et en ce moment, il y a de quoi. Au secours, Seigneur, il y a trop de mensonges. Et David propose une solution. Il demande à Dieu, Seigneur, fais disparaître le mensonge. Au verset 4 et 5, que l'Éternel extermine toutes les langues flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître? Vous comprenez que c'est d'un langage poétique qu'il s'agit ici, mais on comprend bien ce que David veut exprimer 3000 ans plus tard. Couper, exterminer, c'est couper les lèvres, il propose. Couper la langue, hein, c'est ça, hein, c'est quelque chose de définitif. C'est comme couper une branche, c'est fini, ça y est plus. Retrancher les menteurs, le psalmiste David n'y va pas par quatre chemins. Enlève-les, débarrasse-nous-en. C'est vrai que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, nous dit Jésus. Et le problème donc se situe bien dans le cœur. Et pas au niveau de nos lèvres, mais au niveau de notre cœur. Le discours arrogant ici est un discours grand. Combien d'hommes ont formulé de grands discours, de grandes théories? J'ai noté quelques-uns que je trouve pas sympathiques, je vous les donne. Un Marx, un Hitler, un Freud, un Darwin, un Rousseau, de grandes théories remplies d'assurance et de certitude qui maintenant nous effraie avec le recul des années. Les hommes sont très forts avec leur bouche. Mais hélas, dans la pratique, Jacques prévient, les paroles enflamment le cours de notre existence, étant elles-mêmes enflammées par l'enfer. La puissance des paroles humaines est quelque part une contrefaçon de la puissance de la parole de Dieu. La réponse de Dieu va suivre, versets 6 et 7. Parce que les malheureux sont opprimés, que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, sept fois épuré. Contrairement à nous qui avons souci du coupable, la première pensée de Dieu ici, c'est envers la victime, envers la victime du mensonge. C'est d'elle que Dieu se soucie en premier. À cause des victimes des mensonges des hommes, Dieu réagit. Le monarque de l'univers se lève de son trône, attention, il va se passer quelque chose et il dit, j'apporte le salut. C'est la réponse à David. Au premier verset, « Sauve Éternel !» Dieu apporte le salut. Les misérables, les opprimés, victimes de toutes les paroles fausses, creuses, flatteuses, démagogues, de tous les beaux parleurs, de tous les discours arrogants, ces victimes ont besoin de salut. Mais ce salut peut nous surprendre parfois. Il n'est pas comme on pourrait s'y attendre. Connaissez-vous la parabole de l'homme riche et du misérable Lazare, rempli de plaies, qui passe sa vie entière à la porte d'un homme riche qui passe devant lui, sans faire attention? Le pauvre Lazare va mourir. Mais après, il va goûter à la consolation de Dieu. Le riche égoïste va mourir aussi, et se retrouver dans le tourment. Le salut de Dieu peut prendre des formes surprenantes pour nous. Aux paroles truquées des hommes, Dieu oppose sa propre parole. La parole de Dieu est pure. Elle est une, elle est simple, elle n'est pas mélangée de plusieurs choses. Elle est pure. La parole de Dieu est éprouvée, elle est certifiée, elle est conforme, elle est estampillée. Sa valeur est certaine. Pas de risque de mauvaise surprise comme on peut avoir des fois si vous achetez des bijoux ou des bitcoins n'importe où. Vous risquez de tout perdre parce que ça risque d'avoir aucune valeur. Mais là, c'est pas le cas. La parole de Dieu est prouvée, elle est certifiée. Et la parole de Dieu est sept fois épurée. Sept, c'est le chiffre de la complétude, de tout ce qui est parfait, où il n'y a rien à ajouter. Il est impossible ici-bas d'imaginer quelque chose qui soit plus pur, plus authentique, plus précieux que la parole de Dieu. Le plus beau des diamants, avec ses mille éclats, aussi transparents soient-ils, ne peut être comparé à la parole de Dieu. Hein? Elle est là-dedans, dans notre Bible. Quand nous la tenons dans les mains, nous tenons là la chose la plus précieuse et la plus pure qu'on puisse trouver sur la terre et qui est une réponse au mensonge. C'est donc certain, Dieu apporte le salut. Alors David va-t-il être frustré que lui, sa deuxième prière, c'était que les méchants soient coupés, soient retranchés, disparaissent les menteurs. Non, il va pas être frustré qu'il n'y ait pas cette réponse à sa prière. La réponse de Dieu apaise David. Et elle nous apaise, nous aussi. Versets 8 et 9. Toi, Éternel, tu les garderas. Et il parle des hommes pieux qui s'en vont, des fidèles qui disparaissent. Tu les garderas. Tu les préserveras de cette race ou de cette génération à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. David n'a pas exactement la réponse à sa prière, mais il est apaisé et il veut que nous soyons avec lui, apaisés. Dieu va intervenir. Dieu a une solution au problème du mensonge. Il va poser devant nous, devant tous les victimes du mensonge, il va poser son salut. Dieu va protéger ses fidèles, ceux qui croient en lui. David est rassuré. David ne sait pas encore à quoi va ressembler ce salut, mais il a confiance en Dieu et il trouve la paix. Le problème n'est pas réglé pour autant. Le verset 9 est toujours là. Les méchants se promènent de toutes parts et la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Aujourd'hui, nous savons quelle forme a ce salut. Il porte un nom, Jésus-Christ, et une identité, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Pour autant, aujourd'hui encore, depuis 3000 ans après David, le mensonge est toujours là, nous le savons. Mais la Bible nous assure que un jour, Dieu répondra à la prière de David. Et les menteurs et le mensonge disparaîtront complètement. Les mensonges et le menteur seront retranchés, exterminés. Un jour, ce sera fait. Les menteurs n'existeront plus. Alors si, d'apparence, le mensonge gagne des points, ne nous laissons pas leurrer. Il sera jugé et il est déjà condamné. Il est déjà en sursis de mort. Alors le mensonge n'est pas un bon placement pour nous. Ce n'est pas un bon placement. Cette folie que d'investir dans le mensonge. Et nous sommes enclins à le faire, c'est si facile. Surtout pour les petites choses. Les petits mensonges de tous les jours qui nous échappent même et inconsciemment, des fois, on se rend compte après. Mais là, j'ai menti. J'ai pas dit la vérité. Renonçons au mensonge. Renonçons au mensonge. Il n'a aucun avenir. Alors, n'investissons rien dedans. Ce n'est pas une solution pour nous. On va prendre des illustrations. Les malheureux ukrainien sous les bombes pourrait être une belle illustration de victimes du mensonge, tous ces jeunes soldats envoyés comme de la chair à canon à la boucherie, de belles illustrations de victimes de discours arrogants d'un dictateur à la langue fausse, d'un fabricant industriel de fake news, d'un démagogue qui se voit tout puissant. Mais je vais prendre des illustrations dans la vie de David, l'auteur du psaume, parce qu'il avait été particulièrement confronté à ce problème de langue fausse, de cœur double, de flatterie en tant que roi. Et on trouve dans son histoire une grande section qui parle de cela et qui va nous instruire. Donc, je vais lire, parcourir le texte de 2 Samuel 13-20 qui raconte la vie, une partie du règne de David. Alors, c'est juste un petit survol. Amon était un fils de David et il était tombé amoureux de sa demi-sœur Tamar. Samuel 13, verset 5, voilà ce que son ami lui propose. Jonadab lui dit, son ami, « Mets-toi au lit, fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je la voie et que je la prenne de sa main. » Et Amon fait le malade. Amon va mentir pour attirer sa sœur près de lui. Puis, là, il va la violer. Il va la violer. Verset 13, chapitre 13, verset 26, Absalom, le grand frère de Tamar, organise un guet-apens, une tromperie. Il organise une grande invitation où Aman est invité lui aussi pour une grande fête. Et là, Amon va être assassiné. Au chapitre 14, Joab, le chef de l'armée, il soudoie une femme aux paroles habiles pour manipuler David, afin qu'Absalom, le criminel puisse revenir de son exil après son crime. Au chapitre 15, ce même Absalom, il montre un coup d'état contre le roi David, son père. Et c'est intéressant de voir la façon dont il s'y est pris. Chapitre 15, versets 1 à 6. Absalom se procura un char, des chevaux, 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. La porte, c'était l'endroit où étaient prononcés les jugements à Jérusalem. Et les chaque fois qu'un homme, ayant une contestation, se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'interceptait en chemin, l'appelait et disait « De quelle ville es-tu ?» Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Une fake news, un troll, systématiquement répété à toutes les personnes qui rentraient dans les portes de Jérusalem. Discrètement, personne ne t'écoutera. On ne te rendra pas justice. Pourquoi viens-tu là? Vois, ta cause est bonne et juste. La flatterie. Ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aura une contestation et un procès viendra à moi et je lui ferai justice. Tout le monde aura raison. Tout le monde aura raison contre son prochain. Formidable, la démagogie. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, l'embrassait. La ruse, la fraude. Absalom agissait ainsi à l'égard de tout ce qu'Israël se rendait vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Le coup d'État va avoir lieu dans les chapitres qui suivent. Au chapitre 16, on trouve un serviteur de Siba, un opportuniste, qui trouve comme bonne idée de mentir à David pour obtenir un avantage personnel. Au chapitre 17, on trouve le double jeu d'Akai, d'Ushkai, l'ami de David. Au chapitre 20, verset 9, Joab donne un baiser de Judas à Amasa, un rival pour être chef de l'armée à sa place. Et puis, il va lui-même l'assassiner Après l'avoir fait attirer auprès de lui pour l'embrasser, il l'assassine. Est-ce ainsi que Dieu garde ses fidèles des menteurs? Est-ce ainsi que Dieu agit? Regardons le texte qui se passe juste avant. 2 Samuel 11, 12. Et là, David n'est plus la victime. Mais David est le coupable. Juste avant tout ça. Verset 11, 4. David commet un adultère. Chapitre 11, verset 4. David commet un adultère et met enceinte la femme d'Uri. L'un de ses soldats partit à la guerre, il couche avec. Et voilà. Alors, pour camoufler tout ça, David fait revenir Uri du front. Et là, il lui dit, va avec ta femme. Le soldat est parfaitement honnête. Il dit, non, je veux pas. J'ai mes frères là-bas qui combattent. Moi, je vais pas venir passer du bon temps avec mon épouse à la maison. Et David essaye de l'enivrer pour qu'il aille chez lui. Uri refuse. Alors David va demander, va écrire un mot que Uri lui-même va apporter à Joab, le chef de l'armée, avec à l'intérieur marqué Uri, mets-le au plus fort de la bataille, qu'il soit tué dans les combats. Et c'est ce que Joab va faire. Et Joab va faire le rapport à David, et là, la plus grande hypocrisie de David, quand il lit ce rapport. David coupable. Coupable de mensonges, de tromperies, de flatteries, de dissimulation. Dieu va envoyer auprès de son prophète Nathan. Et David va se repentir de sa faute et obtenir le pardon de Dieu. Mais Dieu va retirer la grâce à David. Et suivent donc les fameux chapitres 13 à 20 que nous venons de lire. Dieu apporte le salut à la victime. Dieu apporte aussi le salut au coupable. Dieu a envoyé Nathan devant David pour que David soit sauvé de son crime, de sa tromperie, pour qu'il soit sauvé. Dieu a envoyé, a apporté le salut à David aussi. Alors, quelles applications? Ce matin, l'application, c'est de ne mentir sous aucun prétexte. Vous l'avez compris. Ne pas prononcer des paroles creuses, sans signification, de langue de bois. Ne pas jouer en disant des faussetés. Ne pas faire de flatterie à autrui. Ne pas avoir de paroles hypocrites, de faux semblants, de fausses... voilà. On dit des choses parce que on doit les dire, mais dans le cœur, il n'y est pas. Et bannir les grands discours remplis de certitudes arrogantes. Et bien sûr, l'autre application, c'est de ne pas écouter les mensonges, de lui résister, de faire l'effort de chercher toujours et encore la vérité. Car un jour, mensonges et menteurs seront détruits. J'aurai quelques mots pour les victimes. J'espère qu'il n'y a pas parmi nous des Uri ou qu'il n'y a pas parmi nous des Tamar qui ont été abusés par la confiance d'un proche. La confiance qu'elle portait à un proche. Dieu ne ment pas. Il apporte son salut et sa parole est certaine. Son salut, c'est Jésus-Christ, celui qui est doux et humble de cœur, celui qui ne brise pas le roseau cassé, celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume un peu, celui qui dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Alors il faut saisir ce salut, le recevoir par la foi, ne pas le laisser s'éloigner de nous. Dieu apporte son salut. Dans la pratique, on voit que dans notre monde, les opprimés, les malheureux, ce ne sont pas les derniers. Ce ne sont pas les derniers à saisir la main de Jésus. Ce ne sont pas les derniers. Oui, un jour, oh Dieu, tu me rendras juste. Mais aujourd'hui, tu dis que tu prends soin de moi et je le crois. Tu me sauves, tu me consoles, tu me guéris de ce grand fléau qu'est le mensonge. Un jour, justice sera rendue, me sera rendue. Et aujourd'hui, tu t'occupes de moi. Quelques mots pour les coupables. Si quelqu'un ne bronche pas dans ses paroles, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride, dit Jacques, dans son 3:2, chapitre 3:2. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3:23. Et on peut déduire de cela que nous sommes tous, à un moment ou à un autre, coupables de mensonges, de compromis avec le mensonge. Ici, on ne dit pas tout. Là, on manipule un peu, on arrange les choses avec les paroles. Ailleurs, on baratine, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Tout cela pour préserver nos intérêts, pour satisfaire les convoitises, pour cacher un péché secret au fond de notre cœur. C'est le moment de se repentir. Comme David l'a fait, pourquoi c'est important de le faire ? Pour échapper à l'extermination des menteurs qui aura lieu un jour, c'est certain. La parole de Dieu est pure, éprouvée, sans faille. Un jour, justice sera rendue, un jour, les menteurs seront, disparaîtront complètement. À tous les David, Dieu apporte son salut à tous ceux qui se repentent, qui reconnaissent leurs fautes, leurs culpabilités, leurs mensonges. Oui, moi aussi j'ai menti. Moi aussi j'ai fait du mal à quelqu'un. Moi aussi j'ai flatté, j'ai cherché, j'ai manipulé les personnes. Il reste à saisir ce salut, le recevoir par la foi. Oui, le mensonge est terriblement grave et mérite une juste sanction. Et Jésus-Christ, par amour pour nous, s'est laissé couper, exterminer à notre place sur la croix de Golgotha. C'est ce que nous avons chanté à de nombreuses reprises dans notre culte. Mais Dieu l'a ramené à la vie et lui a donné domination sur toute chose. Alors c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui où l'on vient à Jésus pour lui demander pardon. Prends-moi tel que tu es. Fais de moi cette nouvelle personne auquel au fond de mon cœur je te donne ma vie. Quelques mots de mise en garde. Aujourd'hui, le mensonge est plus populaire que la vérité. Vous savez, Internet est rempli de beaux parleurs, des personnes juridiquement irresponsables dont la seule légitimité, c'est le nombre de vues, le nombre d'oreilles qui les regardent, la popularité qu'ils peuvent avoir. Pourquoi ? Parce qu'ils disent là des paroles flatteuses, des paroles qu'on a envie d'entendre. En fait, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Depuis la fontaine, rien n'a changé. Attention aux trolls, vous savez, cette technique qui consiste à inonder de mensonges. Parce qu'on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. On entend ça partout. Certainement, il doit y avoir de la vérité là-dedans. Déverser méthodiquement des tonnes de mensonges pour faire un scandale. Attention au complotisme qui dénonce le mensonge à l'aide d'autres mensonges qui noient la vérité. Quelques mots de mise en garde et quelques mots d'espérance. Dieu va garder ses fidèles. Les fidèles est celui qui s'attache à la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. En opposition à toutes les blablabla des hommes, il y a la parole de Dieu, sûre, fiable, éprouvée, certaine, elle est pure. Elle ne change pas. Renonçons en conclusion, renonçons aux mensonges et parlons selon la vérité à notre prochain. Oui, si nous sommes victimes de mensonges, si on nous a menti, Jésus-Christ est là. Si on a nous-mêmes menti, Jésus-Christ est toujours là. Dieu nous fait grâce en son. On va chanter le 606. Dieu nous donne sa grâce en y croyant. Nous sommes sauvés. 610.